L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. Nous reviendrons sur la visite du porte-parole du gouvernement Olivier Véran en Sarthe ce mercredi auprès des salariés de l'usine Eaton-Souriau. Il a souhaité mettre l'accent sur l'emploi des seniors alors que le gouvernement réfléchit actuellement à repousser le départ à la retraite dans le cadre de cette fameuse réforme des retraites. Rencontre également avec Joël Pavageau, il aide depuis plusieurs années son épouse lourdement dépendante et handicapée, un couple très engagé sur les questions des fins de vie et qui s'inquiète des évolutions sociétales sur la fin de vie. Pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, une mairie vendéenne a choisi le chauffage au bois pour faire des économies. Une bonne idée réalisée avant le début de la crise de l'énergie. Nous évoquerons également une très belle exposition d'images pieuses d'un couple de collectionneurs mayennais. Les plus belles pièces datent du XVIe siècle. C'est à découvrir dans ce magazine, mais aussi à la Maison diocésaine de Laval jusqu'au 3 décembre. Et enfin, nous vous inviterons à découvrir la microfolie de Segré en Anjou bleu quand les œuvres d'art des grands musées parisiens débarquent dans la médiathèque d'une commune rurale grâce aux technologies du numérique. Voilà donc pour le programme de cette Hebdo Région qui vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était mercredi en Sarthe. Il a visité l'usine Eaton-Souriau, leader mondial de connectique embarquée. Pour nous en parler, avec nous, Paul-Joseph Bouladou nous a rejoint. Bonjour Paul-Joseph.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors c'est un lieu entouré de mystères qu'a visité mercredi l'ancien ministre de la Santé.
Oui, et les portes de l'usine Eaton-Souriau de Champagné s'ouvrent rarement aux visiteurs. Il faut dire que si l'entreprise, spécialisée dans la connectique, met en avant ses partenariats, notamment avec Airbus, elle travaille surtout sur des projets classés, entendons par là classés militaires. Mais si Olivier Véran a esquivé les averses sartoises, ce n'est pas tant pour parler de l'industrie de pointe que pour mettre en avant la politique interne de l'entreprise Eaton.
Je suis venu ici parce que je crois énormément à l'emploi des seniors dans notre pays. C'est qu'on voit que quand une entreprise a décidé de prendre à bras-le-corps l'enjeu de l'emploi des seniors, elle y arrive. Ici, on embauche des gens à 51 ans en CDI. On a même embauché quelqu'un à 60 ans. On accompagne par des parcours de formation tout au long de la vie, ce qui fait que vous avez 58 ans aussi, vous n'avez pas peur de perdre votre emploi.
Patrice Caveguier-Brault, président de la division Interconnect du groupe Eaton, se félicite également de cette coopération intergénérationnelle.
Il n'y a absolument pas de particularisme concernant l'embauche d'un jeune ingénieur de 25 ans ou d'une personne de 55 ans. Ça fait partie de notre éthique.
Selon lui, ces valeurs d'entreprise sont aussi bénéfiques à la production.
On a besoin des compétences de nos anciens pour aujourd'hui être capable de préparer et de former les jeunes embauchés ou même les moins jeunes. Et puis quelque part, d'avoir à éviter des grands à-coups de formation lorsqu'on a une génération qui part.
Cet accueil des seniors est confirmé par Franck, sympathique quinquagénaire et technicien méthode assemblage à l'usine Souriau.
Je suis rentré là il y a 5 ans, mais voilà, j'étais déjà senior quand on m'a embauché. Ici, royal, ça a été impeccable. Et puis on le sent d'ailleurs, même encore maintenant, il n'y a pas de discrimination, au contraire, on participe beaucoup.
Paul-Joseph, si Olivier Véran a souhaité cette semaine mettre en avant l'accueil des seniors à l'usine Souriau, ce n'est vraiment pas un hasard puisque la majorité présidentielle étudie cette semaine les modalités de la réforme des retraites.
Évidemment Thomas. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement a lui-même amené le sujet sur le tapis. D'après lui, cette reconversion des seniors, qu'il a félicité à l'usine Souriau, sera favorisée par la réforme.
Ce qu'on voit d'ailleurs dans les pays où on travaille un peu plus tard, c'est que quand vous avez 55 ans, on considère que vous avez suffisamment de bonnes années devant vous pour pouvoir vous accompagner dans une reconversion professionnelle et vous donner des perspectives.
Pour Olivier Véran, les modalités d'application de la loi sont secondaires.
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je vais vous dire, je n'ai pas connu une réforme des retraites où on n'a pas parlé de passage en force dès qu'il s'agissait d'une réforme difficile, nécessaire, mais contestée par une partie de l'opinion. Personne ne m'a demandé si ce serait en octobre, en novembre ou en janvier. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit est-ce que ça nous concernera? Est-ce qu'on aura la garantie d'avoir des pensions de retraite à bon niveau si on travaille un peu plus longtemps dans le pays? Ça, ils me l'ont posé. Et tout le monde n'est pas forcément ravi à l'idée de devoir travailler un peu plus longtemps.
Le porte-parole du gouvernement insiste sur les raisons de la future loi.
Le fond de la loi, vous le connaissez, c'est le projet présidentiel sur lequel le président de la République, en toute transparence, a été élu par les Françaises et les Français. On va permettre à toutes les personnes qui ont des carrières complètes de gagner à minima 1100 euros net par mois. On va simplifier ce paysage inégalitaire des régimes spéciaux. Où vous dites, la dette n'existe pas, c'est du flan, ça c'est l'extrême gauche, très bien, mais enfin la dette elle existe et elle nous coûte cher. Ou vous considérez qu'il faut changer quelque chose. Nous ce qu'on dit, c'est que le système des retraites, il soit à l'équilibre. C'est-à-dire que pour un euro qui sort, il y a un euro qui rentre.
Malgré des échanges cordiaux avec Olivier Véran lors de la visite, les ouvriers de Eaton-Souriau, eux, n'ont pas semblé adhérer à la réforme des retraites. Écoutons Franck, notre technicien d'usine.
Bon, il fait sa publicité. Titre perso, si je pouvais partir plus tôt, je le ferais. J'ai commencé à 17 ans, je ne vais pas aller jusqu'à 77 ans.
Mais quelle que soit la façon d'opérer pour la réforme des retraites, l'ancien ministre de la Santé a annoncé une date d'application de la loi à l'été 2023.
Paul-Joseph Bouladou pour RCF Sarthe. Merci beaucoup Paul-Joseph, je vous dis à la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité ligérienne, le mécontentement sur les questions de sécurité se fait sentir plus que jamais à Nantes, alors que depuis quelques jours, la ville ne cesse de faire la une des médias et l'action de la mairie est, elle, de plus en plus critiquée. Pourtant, Johanna Roland reste droite dans ses bottes. Pour elle, la municipalité fait tout ce qui est dans son pouvoir pour intervenir sur cette question. La maire de Nantes, qui doit rencontrer aujourd'hui les représentants des restaurateurs avant de s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur en début de semaine prochaine, en attendant une manifestation pour dénoncer les conditions d'insécurité nocturne, aura lieu ce week-end. Toujours à Nantes, si le héron ne s'installera pas dans son nid à Chantenay, il volera bel et bien une fois avec des passagers à son bord. C'est le souhait de ses créateurs pour que les Nantais puissent le voir évoluer et surtout voir le travail qui a été engagé depuis de nombreux mois maintenant. Prochainement, il devrait s'envoler pour offrir à 18 passagers un vol circulaire à 40 mètres de haut d'environ 4 minutes. L'occasion aussi, pourquoi pas, de raviver l'intérêt du privé, seul acteur aujourd'hui en capacité de financer la fin du projet.
L'Hebdo-Région, rencontre avec.
Et nous retrouvons tout de suite Simon Marty de Fidélité Nantes. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Il est possible de légaliser une aide active à mourir, mais à de strictes conditions. C'était il y a quelques semaines l'avis du Comité consultatif national d'éthique, immédiatement suivi du lancement par Emmanuel Macron des premières démarches pour faire évoluer la loi. En Loire-Atlantique, on espère encore faire changer d'avis les politiques, Simon.
Oui, c'est d'ailleurs la position défendue cette semaine par Mgr de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, lors de sa rencontre avec le président de la République sur ce sujet. Cela souligne aussi l'importance des aidants qui accompagnent leurs proches dans ces moments difficiles. Une aide du quotidien que connaît bien Joël Pavageau.
Nous, tous les aidants, on est un peu les gens de l'ombre. Parce que on est là, faut qu'on soit là, je dirais quasiment en permanence. En ce qui me concerne, je suis directement aidant, oui, et aidant depuis 39 ans maintenant. Donc, si vous voulez, par là, on est mêlé à la vie. C'est une vie commune que l'on mène. Et je pense que tous les aidants, c'est un travail important qu'ils ont à faire. C'est nécessaire. C'est en fait, tout simplement, ça ne se situe pas. Carrément dans l'amour.
Un travail d'amour pour prendre soin de ceux qui nous sont chers. Le beau message de ce couple que la maladie n'a jamais séparé.
Cela veut dire un meilleur accompagnement et des soins palliatifs plus adaptés ?
Oui Thomas, la déclaration le 13 septembre dernier du comité d'éthique a relancé l'inquiétude d'une partie de la population, parmi eux Marie-Annick et Joël Pavageau. Le couple défend ardemment la dignité des personnes en situation de handicap et s'inquiète des évolutions sociétales sur la fin de vie en France depuis qu'un AVC a rendu Marie-Annick tétraplégique du jour au lendemain. Depuis l'annonce du comité d'éthique, ensemble, ils écrivent à tous les députés, sénateurs, jusqu'au président lui-même, pour partager leur vision d'un monde qui a oublié ce qu'était la mort, comme nous l'explique Joël Pavageau.
Aujourd'hui, notre société s'est coupée de la mort. Plus c'est occulté, plus ça fait peur. Et on trouve des solutions qui sont les solutions pas les vraies. Des solutions comme proposer d'abréger la vie. Il y a aussi des médecins, des économistes, et ainsi de suite, qui ont dit mais pourquoi garder ces gens-là dans cet état-là, puisque de toute façon, ça doit finir plus ou moins rapidement. Donc, autant le faire doucement, et ça sera d'ailleurs une mort en douceur, et voilà. Mais vous savez, il y a une expérience que pratiquement plus personne n'a fait aujourd'hui. C'est quand vous avez quelqu'un qui meurt, vous lui serrez la main, vous sentez encore la main encore chaude, la main qui vous serre, qui serre la vôtre aussi. Et puis tout d'un coup, vous avez le grand relâchement, le dernier soupir qui n'est suivi d'aucun autre. Vous restez là, un peu béat, en attendant que ça reparte. Et puis ça ne repart pas. Je crois que ça, c'est des choses importantes que malheureusement, oui, on ne vit plus aujourd'hui.
Se reconfronter à la mort pour mieux l'accepter et mieux accompagner les malades, mais sans décider à la place de la vie, du moment où elle s'arrêtera, voilà ce que défend le couple.
Simon Marty de Fidélité Nantes, merci Simon, merci pour ce beau témoignage de Joël Pavageau et de son épouse qui défendent ardemment depuis plusieurs années la dignité des personnes en situation de handicap et qui s'inquiètent donc des évolutions sociétales sur la fin de vie en France. Et on peut rajouter pour conclure que la journée des aidants aura lieu le 6 octobre, c'est jeudi prochain. On continue cette hebdo-région des Pays de la Loire avec ce triste palmarès que celui de la Mayenne. Oui, on reparle encore des déserts médicaux avec ce palmarès publié conjointement par l'hebdomadaire Marianne et le Guide de la Santé. Sur 316 villes étudiées, Château-Gontier arrive en 109e position devant Laval, 237, et Mayenne, 298e place pour obtenir donc un rendez-vous en étant un nouveau patient. Sans parler du nombre de spécialistes qui décroît de façon très inquiétante, l'Association de citoyens contre les déserts médicaux alerte toujours et encore sur les perspectives d'avenir, connaissant le nombre de praticiens qui doivent partir en retraite sous peu. Toujours dans le domaine de la santé, une marche était organisée samedi dernier à Fontenelle-Comte en Vendée, à l'initiative du maire de la ville, pour alerter les autorités nationales sur justement les territoires en zone de désertification médicale. 800 personnes, élus, citoyens, soignants, y ont participé. Dans le sud-est Vendée, environ 15 000 habitants n'ont pas de médecin traitant. Le grand débat sur la santé, lui, sera lancé au Mans le lundi 3 octobre. Le ministre de la Santé, François Braun, a choisi de venir en préfecture sartoise pour démarrer cette grande concertation nationale sur le système de soins promise par Emmanuel Macron. Le 18 septembre, le ministre de la Santé avait déclaré au JDD que le CNR serait lancé en province, dans une région où on a des difficultés, mais où on innove. À peine ouvert, le nouveau centre dentaire de l'hôpital du Mans affiche complet jusqu'en février 2023. 800 patients ont pu obtenir un rendez-vous en seulement quelques jours. La semaine dernière, le logiciel de réservation n'avait pas pu supporter l'afflux de connexions, entraînant des soucis dans la prise de rendez-vous et la saturation du standard téléphonique. En attendant de nouveaux créneaux, la plateforme de réservation en ligne est suspendue.
L'Hebdo-Région, initiative.
À partir de cet hiver, la mairie de la Génétouze en Vendée sera chauffée au bois et plus précisément au granulé de bois. Bonjour Fanny Brevet.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors la municipalité, Fanny, a adopté ce nouveau mode de chauffage après plusieurs études pour rénover les systèmes de la commune.
Oui Thomas, face à la pression de la transition énergétique, la Génétouze trouve ici une solution pertinente. Solution qui réduit aussi les coûts énergétiques de la ville à l'heure de la flambée des factures. Écoutez Guy Plissonneau, maire de la Génétouze.
Alors on avait un système au gaz, donc on a abandonné le gaz pour une chaudière à granulés bois. Nous avons également réalisé l'isolation des combles et changé les menuiseries extérieures. C'est effectivement une solution parmi d'autres. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à avoir un mixte énergétique sur nos communes entre de l'électricité, de la production photovoltaïque par exemple, et puis une chaudière à granulés par ailleurs.
Ce nouveau système de chauffage fait partie d'une série de mesures mises en place par la commune, dont l'idée remonte bien avant le début de la crise énergétique.
En 2014, l'équipe en place avait réalisé un audit des équipements publics et nous avons planifié depuis cette date la rénovation d'un certain nombre d'équipements, la mairie étant le dernier équipement que nous rénovons.
Avec ce nouveau système de chauffage, la commune de la Génétouze va tout de suite réaliser des économies.
Avant crise, la facture de gaz s'élevait à 10 000 euros. Nous avons acheté les granulés pour les 12 prochains mois. Nous en avons pour 3 800 euros. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de mathématiques pour voir le réel intérêt pour la collectivité. On est avec l'augmentation du prix du gaz, on est sur une facture divisée par 3, effectivement.
Et à l'instar de la Génétouze, plusieurs autres communes vendéennes pourraient faire le choix du chauffage au bois.
Oui, je pense que de nombreuses communes ont engagé cette réflexion-là sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments et sur l'adaptation des modes de chauffage. Ça dépend surtout de la taille de l'équipement et de l'historique de l'équipement. Le choix d'une chaudière à bois ou à granulés, c'est la conséquence d'un diagnostic et d'un choix d'élu.
Le nouveau chauffage au bois de la mairie de la Génétouze entrera en service dans les prochains jours.
Fanny Brevet pour RCF Vendée, merci beaucoup Fanny. Et puis heureusement que ce maire vendéen a déjà constitué son stock de granulés avant la crise, car les granulés s'arrachent maintenant à prix d'or partout en Europe. C'est une des conséquences des tensions sur les marchés de l'électricité et du gaz consécutives à la guerre en Ukraine et au bras de fer avec la Russie. La tonne de granulés qui se vendait autour de 300 euros les années précédentes atteint désormais les 700 euros. À cela s'ajoute une crainte de pénurie en France qui provoque donc une frénésie d'achat chez le consommateur, alimentant également cette pénurie, alors que les professionnels se veulent rassurants et appellent à échelonner les achats afin d'éviter justement cette pénurie. Dans le reste de l'actualité vendéenne, des tensions resurgissent à Bretignolles-sur-Mer autour du projet de port de plaisance. L'ancien maire Christophe Chabot démissionne de la présidence de l'association Bretignolles veut son port. Il estime que l'actuel maire de la ville, Frédéric Fouquet, n'a ni le courage ni l'envie de faire un port de plaisance. Avec ce départ, il entend réveiller les consciences. Après un colloy historique qui a duré près de 8 jours au lieu de 5 habituellement, la saison vient tout juste de s'achever pour les 94 sauniers et saunières de la coopérative de sel de l'île de Noirmoutier. Alors le colloy, c'est le nom donné au transport de la récolte de sel vers la coopérative. Et ce sont finalement 5 009 tonnes de gros sel qui ont été produites cette année. Le record de 2019 avec 4 200 tonnes est largement battu. Et la production de la fleur de sel devrait cette saison atteindre les 180 tonnes, soit le double des années précédentes.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
Et nous retrouvons Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. Elle a rencontré des collectionneurs d'images pieuses qui ont à leur actif près de 10 000 pièces.
Oui, bonjour Thomas, c'est une magnifique exposition d'images pieuses, près de 1000 ans de styles et d'époques différentes, hein, qui est présentée à la maison diocésaine de Laval. Geneviève et Gérard sont les collectionneurs, ils nous rappellent la symbolique et le pourquoi de ces images.
L'image à l'origine, c'est les gens beaucoup dans les campagnes ne savaient pas lire. Et donc l'image pour eux, ça leur apportait un savoir de la religion, comment pratiquer. Parce que chaque image a une histoire et qui nous dit comment pratiquer la foi du Christ.
Je vous propose de commencer notre tournée avec les plus anciennes images que détiennent Geneviève et Gérard, les Anversoises, dont certaines datent
des années 1560. C'est d'origine hollandaise, ça a été fait par en général des femmes et aussi des hommes qui étaient en général issus de la bourgeoisie et noblesse, et ensuite les religieuses.
Les premières images sont en parchemin. Les Anversoises, c'est un parchemin. Alors, parchemin très épais, et ensuite, il y a eu le velin. C'est un parchemin qui a été plus travaillé pour le faire une feuille beaucoup plus fine. Et après, on retrouve dans les plus fines les canivets qu'on fait travailler à la main avec des petits canifs.
Qui ressemblent, si on veut les décrire à nos auditeurs, en fait, on dirait vraiment de la broderie.
Et là, ceux-là, ils sont faits à la main. Redessiner, redécouper avec du petit papier pour faire des tissus papier, genre feuilles d'hostie. Cette vitrine est toute en canivet. Vous voyez tous les modèles différents de dessins qui sont.
En général, par des religieuses. Elle les donnait pour un événement ou pour remercier en général de dons. Le vrai canivet, on le reconnaît, il a un 8. Le 8 couché, c'est vraiment le nœud magique et le motif est sans commencement ni fin. Il représente l'éternité et la figure d'un saint au centre.
Les plus anciennes sont beaucoup plus travaillées et plus on remonte dans le temps, plus les sœurs avaient moins de temps et ça allait plus vite et le dessin était moins beau.
Ils sont mécaniques.
Il y a une époque où c'est plus relevé, disons les années 1780. C'est là où on trouve les plus beaux canivets, 1780. C'est des incrustations collées, oui. Des petits motifs d'or. Et les images, elles sont bien sûr peintes à la main et ça, c'est les plus recherchés. Pareil, des années 1840-1850. C'est là l'apogée des images religieuses.
Alors Thomas, je vous assure que beaucoup de ces images pieuses présentées pour cette expo s'apparentent vraiment à des œuvres d'art.
On dirait de l'or, oui, mais ce n'est pas de l'or, c'est doré.
Toujours sur du papier.
Oui, ah oui, très fin, très très fin. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on en trouve, elles sont toutes abîmées, elles ont des dentelles en moins et tout. Le but, c'est quand même d'avoir de la qualité.
Voilà, impossible de tout décrire ici. Certaines paraissent travaillées à la feuille d'or, d'autres sont pliées et repliées et repliées encore, jusqu'à présenter les 12 stations du chemin de croix. D'autres sont tellement fines qu'elles en sont presque transparentes. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une très très belle exposition qui vaut vraiment le détour jusqu'à Laval.
Merci Isabelle, on sent effectivement que vous avez été conquise. Alors si votre enthousiasme est contagieux, eh bien nos auditeurs auront jusqu'au 3 décembre pour venir admirer ces images représentatives de la foi et de la piété populaire. Et si je ne m'abuse, Isabelle, l'exposition se situe à la maison diocésaine, donc tout près des locaux de Radio Fidélité Mayenne.
Mais exactement, Thomas, et nos auditeurs pourront même en profiter pour venir nous dire un petit bonjour.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Venir voir la Joconde à la médiathèque de Segré en Anjou Bleu, dans le Maine-et-Loire, c'est désormais possible. La médiathèque vient de se doter d'une microfolie, c'est-à-dire un musée numérique pour admirer les œuvres des musées parisiens sur grand écran ou bien sur tablette. C'est une initiative du ministère de la Culture pour amener l'art dans les villes où il n'y a pas de musée. Il y a déjà près de 200 microfolies en France et à l'étranger, dont 3 dans les Pays de la Loire, à Châteaubriand, à Saint-Jean-de-Mont et à Allonnes, près du Mans. Celle de Segré a ouvert ses portes mercredi. Des dizaines de curieux sont venus voir comment ça marche. Le reportage de Marion Bastide.
Sur un grand mur d'écran, des œuvres défilent sur un fond musical. Chaque visiteur s'assoit derrière une tablette et suit l'explication de Marina Savoyer, coordinatrice de la microfolie.
Quand vous voyez une œuvre qui vous plaît, comme ici à Mona Lisa, vous voyez un cœur palpitant sur la tablette et vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir sur votre tablette, tout simplement, la même œuvre. Vous pouvez déjà zoomer dessus. Et là, vous avez une qualité aussi d'image assez extraordinaire. Vous pouvez naviguer, explorer le tableau. Pour aller plus loin dans les explications, comme dans un musée, vous avez un cartel où on peut agrandir le texte. Vous avez plus d'informations complémentaires. Vous avez une petite flèche à droite pour continuer à découvrir l'œuvre. Parce que même les grands classiques, on va découvrir des choses... Pour les enfants, les plus jeunes ou même les adultes, on va apprendre en s'amusant avec des jeux de puzzle ici, colorisation, jeux de memory, on a aussi jeux du taquin. Et vous allez pouvoir ainsi vous approprier l'œuvre quelque part.
Isabelle Debuine est venue en voisine, elle est la directrice de l'accueil de loisirs qui jouxte la médiathèque. Elle est vraiment séduite par ce nouvel outil.
J'adore les bijoux, donc j'ai réussi à faire le puzzle du Régent, le diamant du Louvre, formidable. Et puis quelques œuvres de peintres célèbres que j'aime beaucoup. Et puis je pense que c'est vraiment accessible à tous et vraiment très beau. En plus, je trouve que la qualité de l'image est magnifique. On est plongé dans les œuvres, l'art, c'est très bien.
Marie, elle, est un peu déçue de devoir explorer les œuvres sur tablette.
Ça m'intéresse de voir en grand. Ça, j'en sais rien. Je sais pas dire.
Car si on veut vraiment s'arrêter sur une œuvre, ça se passe sur une tablette et pas sur le grand écran, explique Marina Savoyer.
Sur le grand écran, ça continue. La collection défile comme si, en fait, vous étiez au musée. Vous êtes arrêté sur un tableau et il y a d'autres tableaux ailleurs. Sur le grand écran, continue de se diffuser la playlist, donc d'autres visiteurs arrivent. Ils vont aussi se saisir d'une tablette et sélectionner à leur tour des œuvres. Donc chacun sur sa tablette aura finalement des œuvres en détail, tandis que cette boucle, c'est une boucle à l'infini.
Une boucle de 300 œuvres pour cette collection. Il y en a 8 en tout, de quoi faire découvrir plus de 3000 œuvres au Segréen, se félicite Colette Romane, l'adjointe à la culture à la mairie de Segré.
Cette microfolie, c'est une nouvelle offre sur le territoire en matière d'art visuel et d'art plastique. Donc on a trouvé que comme on est dans une région où on n'a pas accès aux musées, où ils sont très loin, du coup on avait la possibilité avec cet outil-là d'accéder aux œuvres des plus grands musées nationaux qui sont le Louvre, Orsay, le Quai Branly, etc. et des institutions de spectacle comme la Philharmonie de Paris, le Festival d'Avignon ou l'Opéra de Paris.
Car en plus des peintures, des sculptures, des photos, les collections présentent des extraits de spectacles à écouter au casque. Danse, musique, théâtre, il y en a pour tous les goûts. À partir de la Toussaint, des visites commentées seront organisées autour d'une thématique différente à chaque fois. Marina Savoyer y présentera une sélection de 3 à 7 œuvres.
Il faut penser que la micro-visite, c'est une interaction avec le public. C'est aussi le public qui fait sa visite, c'est-à-dire qu'il y a une présentation, mais on n'est pas, si vous voulez, dans le guide parle et les spectateurs écoutent religieusement. On a un côté d'échange, d'interaction. Donc la thématique elle-même va interroger le public pour s'approprier les œuvres, ouvrir en fait des débats aussi. Il y a l'idée d'aller se questionner sur notre expérience.
Pour fêter l'ouverture de la microfolie, un micro-festival se tiendra ce samedi avec le duo de rappeurs Louboel et Kochei. Ils animeront un atelier d'écriture sur inscription de 14h à 16h, suivi d'un concert à 16h30 où ils improviseront en s'inspirant des œuvres de la microfolie.
La microfolie de Segré est ouverte le mercredi après-midi et le samedi toute la journée sur les horaires d'ouverture de la médiathèque. Cet équipement a coûté 60 000 euros, pris en charge à 80% par l'État, le reste étant payé par la mairie de Segré. Et c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.